Mais par contre, si quelqu'un vient attaquer nos croyances, nos convictions, on est hyper rapide à défendre notre foi. Mais ce que Jésus dit, ce qu'il souligne, c'est pas croire qui fait la différence. C'est ce que l'on fait en rapport à nos croyances. Et ici, à ECP, dans cette église, ce qu'on a à cœur, c'est pas juste ce que tu crois. Pas simplement ça. Ce que l'on a à cœur, notre désir pour toi, c'est que tu pratiques ce que tu crois. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a un terme pour ça. Disciple. Suivre Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui suit son exemple. Jean 1, 43. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi, suis mon exemple, sois mon disciple. » Et on a à cœur dans cette église, les pasteurs, mais vraiment l'ensemble, et je crois qu'il y en a beaucoup qui se joignent à ce cœur-là, c'est qu'on puisse pratiquer ce que l'on croit. C'est que l'on suive Jésus. Parce que c'est ça vraiment qui va faire la différence. Ce n'est pas juste croire qui va rendre notre vie fascinante. C'est la mettre en pratique. Mettre en pratique ce que l'on croit. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est difficile, c'est compliqué, et je pense que même c'est impossible de vraiment suivre Jésus, de vraiment être un disciple de Jésus lorsque l'on est isolé, lorsque l'on est seul. Je le crois, vous pourrez venir débattre avec moi, mais je le crois, mais avec ce que je vais vous annoncer après, je pense que vous ne voudrez plus débattre avec moi, vous croirez ça aussi. Ce n'est pas un sport solo, la vie de chrétien, c'est un sport d'équipe. C'est quelque chose qui se vit ensemble. Et le titre de mon message ce matin, si tu en veux un, c'est « Connecter les uns aux autres ». Seigneur, je veux simplement te remercier pour cette parole ce matin. Que tu puisses vraiment saisir les mots, Seigneur, ce que tu as déposé sur mon cœur, et que tu puisses vraiment nous interpeller chacun. Parce que la réalité, Seigneur, c'est que c'est toi qui connais chacun des cœurs. Et Saint-Esprit, c'est toi qui es en mesure de nous interpeller chacun précisément là où nous avons besoin de t'entendre, là où nous avons besoin d'être encouragés, là où nous avons besoin d'être interrogés, d'être remis en question. C'est toi qui viens et qui convainc les cœurs. Alors Saint-Esprit, ce matin, prends toute la place. Prends ce message, prends mes paroles et viens nous toucher au plus profond. Viens nous amener à être changés, à être transformés du plus profond de nos cœurs. Amen. Amen. Je vous ai entendu, vous avez dit Amen. Et vous l'avez compris, je n'ai pas envie de parler de sport, j'ai vraiment envie de parler de notre vie de foi et de notre vie en tant que disciple. Et pour ça, vous connaissez Paul, on en parle souvent, c'est quelqu'un qui détestait les chrétiens au point où il voulait même les faire tuer, il voulait faire anéantir les églises qui commençaient à se bâtir. Et ensuite, 3 à 5 ans à peu près, après la résurrection de Jésus-Christ, il y a des débats sur la période après, lui-même, il est touché par Jésus et il devient un disciple de Jésus et vient à le suivre. Et au lieu d'essayer d'anéantir, de casser le mouvement qui est en marche de l'Église, lui-même commence à tourner autour du bassin méditerranéen et à commencer à implanter des églises. Il vient faire l'inverse. Et lui, ce qu'il dit à toutes ces églises-là, parce que ce qu'il a écrit, c'est énorme, ça fait plus de la moitié de notre Nouveau Testament, tous ces écrits. Et ce qu'il dit, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose de solo, ce n'est pas quelque chose de perso, ce n'est pas quelque chose juste pour toi. Il explique à chaque fois que c'est quelque chose de communautaire. Et regardez, il y a une liste que je vais appeler la liste « les uns les autres ». Il dit que c'est quelque chose de très relationnel. Regardez. Il dit « aimez-vous les uns les autres Accueillez-vous les uns les autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Soyez bons les uns envers les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Avertissez-vous réciproquement. La liste, elle est encore plus longue que ça. Pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, ça. On a besoin d'être en connexion avec d'autres pour ça. Peut-être que tu te dis, ah, mais moi je pensais que la vie de foi, être avec Jésus, c'était, je viens le dimanche matin, je me mets assis sur ma chaise, quand on me demande de me lever, je chante, quand je vois un ou l'autre qui lève les mains, je me dis, hop, je lève la main aussi pendant la louange, je chante un ou deux chants que j'aime ou parfois que j'aime moins, parce que des fois les chants ne sont pas ceux que j'aime, je préfère les autres. Et tu te dis c'est ça, et puis après tu arrives à la fin du culte, tu dis salut, au revoir, et tu repars. Et pendant la semaine, tu essaies de ne pas être trop méchant avec les autres. Et puis tu reviens dimanche d'après. Et peut-être que tu te dis c'est ça la foi, mais non, ça c'est quelque chose de très solo. Ça c'est quelque chose juste moi et Dieu, les autres ne s'occupent pas de mes affaires. Mais quand tu regardes à la liste, pardon, quand tu regardes à cette liste, tu vois que c'est impossible de faire ça tout seul. Ce n'est pas suffisant de croire seul, ou même dans un petit cercle privé, la famille. C'est quelque chose qu'on doit vivre publiquement, aux yeux de tous. Tout le monde doit pouvoir voir ça. Chez nous, chez toi, si tu t'appelles chrétien, si tu dis de toi que tu es un chrétien. Ce n'est pas suffisant de croire en privé. Ça ne fait aucune différence. Mais la pratiquer en public, c'est ça qui fait la différence. Et peut-être que beaucoup, comme moi, ils ont grandi dans une approche traditionnelle, ce que j'appelle l'approche verticale, où c'est celle que j'écrivais, on va à l'église, et puis on a notre approche de Dieu, et puis on essaye d'être bon avec lui, et puis lui avec nous, et puis c'est bien, et puis de temps en temps on essaye d'être généreux, et puis c'est cool, on s'attend à ce qu'il nous donne des choses, et puis voilà, et on a une approche très personnelle de Dieu. C'est une approche verticale, c'est surtout à propos de mon comportement. Mais ça, quand on est comme ça, ça nous positionne à devenir des gens qui sont très autosuffisants. Ça nous conduit à devenir légaliste. Ça nous conduit à devenir égoïste. Ça nous conduit à être prompt à juger l'autre. Ça, c'est si on a juste cette approche-là. On arrive même à penser, à nous, on est les chrétiens, puis les autres, là, dehors, attends, il fait mal, hein, attends, Dieu, il va le choper. C'est ça. Ça, c'est l'approche verticale. Et après, c'est plutôt ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'approche un peu plus dans ce sens-là. Mais elle est bonne et elle est importante, parce que, bien sûr, on a besoin de croire en Dieu. Mais si elle est seule, il y a un problème. Et puis quand on arrive dans le Nouveau Testament, on regarde à Jésus, et il ne dit pas à ses disciples, « Restez loin des autres, Dieu va les choper !» Il n'est pas en train de leur dire ça. Il a dit non. Jésus dit à ses disciples, il enseigne à ses disciples, « Vivez votre vie d'une manière telle que lorsque les gens regardent à vous, ils fassent « Waouh !» J'ai envie de faire partie de ça. Regarde comme ils s'aiment. Regarde comme ils s'accueillent, comment ils se servent l'un l'autre. Regarde comme ils portent le fardeau les uns des autres. Les gens du dehors, quand ils regardent à l'église, doivent faire la mâchoire qui tombe, les yeux qui sont comme ça. Qui se disent « Waouh, ça existe ce genre d'endroit, ça semble un rêve. » C'est ça que les gens devraient penser quand ils voient l'Église. Et vraiment, qui voudrait pas faire partie de cela? Je pense que si on demandait de lever la main, tout le monde aurait envie de faire partie de ce genre de contexte, de ce genre de groupe. Mais voilà, c'est l'approche verticale, mais aussi l'approche horizontale, les uns, les autres. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment c'est important n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est vraiment l'un et l'autre, notre vie de foi. Pour être un disciple, pour suivre Jésus, il s'attend à ce qu'on ait ces deux côtés, ces deux axes. Et pour ça, j'aimerais prendre un passage dans Hébreux. On ne connaît pas vraiment l'auteur de Hébreux. En tout cas, ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui était là au 1er siècle. Peut-être un disciple de Jésus, on n'en sait rien vraiment. Ou peut-être quelqu'un, un ami proche d'un disciple de Jésus. Enfin, quelqu'un qui était en contact dans le 1er siècle. Et on a estimé que c'était tellement bon ce qu'il a écrit, qu'il y avait tellement de contenu. C'est même pas tellement un livre, c'est plutôt un message, un sermon qui est donné comme ça. On a estimé que c'était tellement bon, on l'a inclus dans notre Bible d'aujourd'hui. Et ça s'adresse à des juifs, donc aux religieux de l'époque, aux personnes qui étaient là. Et c'est un texte, enfin des juifs, pardon, convertis au christianisme. Des personnes qui se sont données à Dieu. Et regardez ce que l'auteur d'Hébreux fait. Il passe de l'axe vertical rapidement à l'axe horizontal. On va regarder comment ça se passe. Hébreux 10, 19. « Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. » Et là, ça résonne immédiatement dans l'esprit des gens qui l'écoutent ou qui le lisent, parce que c'était des juifs et ils comprenaient que dans le système du temple, le lieu très saint, c'était un lieu qui était accessible seulement aux grands sacrificateurs. À une seule personne chaque année, il allait dans la présence de Dieu et il était accessible juste à lui. Mais là, quand l'auteur écrit ça, ils comprennent que depuis Jésus-Christ, ils ont une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. On a un accès direct à Dieu. On n'a plus besoin de passer par un grand sacrificateur. On n'a pas besoin de passer par un pasteur. Chacun de nous avons un accès direct avec Dieu. Et c'est ça qu'il est en train de leur dire. Et plus loin, il continue et dit « Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, pas un chemin mort et ancien. Un chemin nouveau et vivant. Le chemin mort et ancien, c'est on faisait un sacrifice d'animal chaque année pour retrouver la paix avec Dieu. C'était comme ça que ça se passait. Mais là, il dit, depuis Jésus, il y a un chemin qui est nouveau, qui est vivant. Et puis, après, il parle du rideau. Et là aussi, dans l'esprit des gens, ça clique directement. On reviendra après dessus. Et tout ce qu'il dit là, après, il parle et il dit, c'est-à-dire à travers son propre corps, à travers le corps de Christ. Tous ces gens qui sont en train d'écouter, sont en train de se dire, waouh, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me faire comprendre. Et vous dites la même chose maintenant. Et puis, il y a le verset 21. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi. Ça, c'est très moi et Dieu. C'est très vertical ce qu'il est en train de dire. C'est vraiment notre relation avec Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est important. Ne mettez pas ça de côté. Prenez ça en compte. C'est ce qu'il est en train de leur dire, l'auteur. Et puis, il bascule. Il passe de l'axe vertical à quelque chose d'horizontal. Et il dit, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Il dit en gros, c'est une très bonne chose si on est orienté vers Dieu, mais soyons sûrs que l'on doit rester fidèle concrètement, pratiquement, que l'on exerce les choses que Dieu nous a appelés à faire. Au contraire de notre foi verticale qui est juste privée, c'est moi et Dieu, il nous dit il y a aussi un aspect public à votre foi, un aspect vertical. Et regardez, il dit, et veillons, considérons, portons notre regard. C'est ça que ça veut dire. Portons notre regard sur quoi? Donc on passe de cette foi privé invisible vers cette foi publique et il dit les uns les sur les autres pour nous encourager mutuellement. notre foi, si on veut être des disciples, ça ne peut pas être juste quelque chose de privé. Ça doit être public. Ça doit pouvoir être vu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et si on regarde ce mot-là, encourager, il est hyper intéressant parce que regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire exciter, inciter, irriter, être un instigateur. Ce que l'auteur il est en train de dire, il est dit, je veux que tu excites la foi de l'autre, que tu l'irrites, je veux que tu l'incites, que tu sois un instigateur, ça veut dire que tu le pousses dans ce qu'il vit. Il y a une notion qui nous dérange, parce qu'on dit, ah, la foi c'est mes affaires, ça ne te regarde pas. Mais non, l'auteur il est en train de dire autre chose, il est en train de dire, non, il faut que vous puissiez avoir ce genre d'accès, de connexion, d'une manière à ce que quelqu'un puisse venir t'irriter, te déranger un petit peu, te perturber, te poser les questions qui sont peut-être un peu plus difficiles. Il faut que tu donnes la permission à quelqu'un d'avoir un accès à ta vie de foi, à ta vie avec Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire, l'auteur. C'est pas juste quelque chose comme ça pour toi personnellement. C'est quelque chose qui vit publiquement. Et cet encouragement-là. Et il est important parce que ce qu'il dit, c'est je veux que quand tu vois un couple qui est en train de lutter, que tu aies accès à ce couple pour pouvoir les encourager. Je veux que quand tu vois un ami qui est en train de s'éloigner, que tu aies accès à cet ami pour pouvoir l'encourager, le relever, lui dire les choses. Je veux que quand tu vois le fils de cet ami qui est en train de s'éloigner et que papa ne sait pas quoi dire, que maman ne sait pas quoi dire, tu aies accès à ce fils pour pouvoir l'encourager. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen, amen. L'auteur, il est en train de dire, je veux que vous soyez en relation les uns avec les autres d'une manière si forte que vous puissiez vous encourager les uns les autres. De manière positive, parce qu'on a tous, on aime bien quand on nous dit des belles choses, etc. Mais aussi parfois de manière un petit peu plus négative. Où, tu sais, j'ai remarqué chez toi que quand tu avais ce genre de situation, il y avait comme un caractère assez intéressant qui sortait de toi. Et peut-être j'aimerais discuter avec toi pour comprendre ce qui t'amène à exprimer ce caractère. Entendre ceux qui veulent entendre. Mais il est en train de dire notre foi, c'est très relationnel. C'est pas juste privé. C'est quelque chose de public, c'est quelque chose de relationnel. Il est en train de dire vous avez besoin les uns les autres. Les uns des autres. Ça, c'est ce que Paul il dit à toutes les églises, à chaque fois qu'il en implante une, les uns les autres, pas juste toi et Dieu, les uns les autres. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin les uns des autres? Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. C'est croire en action. On agit. On n'est pas juste en train de croire. C'est pas juste ce vélo d'appartement qui va me permettre de garder la santé. Mais c'est exercer qui va me permettre d'avoir la santé. Il faut que je monte dessus. C'est faire qui fait la différence. Et tu sais quoi? Il y a des chances que tu ne fasses pas grand-chose si tu n'as pas quelqu'un qui t'excite, qui t'encourage, qui t'incite à vivre la foi. Et pour que tu puisses pardonner vraiment, pas que tu penses que, ah oui, faudrait peut-être que je pardonne, ça serait juste. Ou alors pas que, pour que tu puisses vraiment placer les intérêts des autres devant les tiens, pas juste que tu penses, je ne devrais pas être si égoïste. On n'a besoin de personne dans notre vie pour nous aider là-dessus. Et ensuite l'auteur, il vient encore plus loin et puis on se dit, mais comment est-ce qu'il sait ça en fait? Comment est-ce qu'il était dans ma tête quand il a écrit ça? Il savait ce qui se passait en moi dans ces moments-là? Et il vient se mêler de nos affaires, vraiment. Il vient dire... Ah. Parce que vraiment, quand on est irrité par un frère ou par quelqu'un, ou qu'on a pris une petite offense et tout ça, ce qu'on a envie de faire, c'est ça. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Quand on se sent un peu irrité, qu'on n'a pas su recevoir l'encouragement, ou que l'encouragement qui nous a été apporté a été aussi assez brut, parce qu'on n'est pas toujours très doué à apporter un encouragement, eh bien, on se dit « Ah, non, non, elle m'a fait trop mal, je m'en vais. » C'est vrai. Combien de cas? Et les réalités, c'est que c'est comme ça qu'on commence à s'isoler de l'Église. C'est comme ça qu'on commence à s'isoler des autres. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il dit, l'auteur. Il dit, c'est important que tu considères d'être en communion avec les autres. Parce qu'en réalité, si tu n'es pas là-dedans dans cette communion, ben, il va y avoir des conséquences pour ta foi. Il y a un risque pour ta foi. On va voir ça dans quelques instants. Mais l'auteur de la lettre, il y a aussi Paul et même Jésus qui disent que si tu veux être un chrétien isolé, vivre ta foi à l'écart de la communauté ou de l'Église, pas en connexion, si on regarde à travers les lignes, en fait, ils disent, c'est que tu n'as pas vraiment compris ce que c'était la foi chrétienne. Tu n'as pas vraiment compris ce que c'était la vie chrétienne. Tu n'as pas vraiment compris ce que c'était qu'être un disciple. Ce n'est pas juste venir le dimanche et repartir. Certains prennent ce passage-là comme dire, ok, non, moi je viens à l'église le dimanche, mais je crois que l'auteur, il veut aller plus loin que ça. Ce n'est pas juste se retrouver le dimanche. On peut être là tous le dimanche et puis pas être vraiment en connexion, en relation. On peut juste participer à une assemblée. Non, l'auteur, il est en train de dire, non, il y a plus. On ne peut pas juste s'arrêter à ça. C'est vraiment une foi les uns avec les autres. Et tu sais quoi, je crois que tu ne peux pas mûrir au-delà d'un certain niveau si tu ne te mets pas en relation avec les autres, si tu n'es pas en connexion avec les autres. Parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'encourager, tu as besoin de quelqu'un pour t'inciter, quelqu'un pour te pousser, quelqu'un pour t'amener à comprendre comment peut-être ta vie... ton passé a affecté ta foi et t'aider à avancer. Il y a une connexion qui est divine entre la communion fraternelle et la fidélité qu'on a envers Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque, quand tu te sépares de la communauté, quand tu t'isoles d'une communion fraternelle, c'est que tu sois moins fidèle à Dieu. Dans certains aspects, tu vas dire « Ouais, je suis fidèle », mais dans l'ensemble de ce que Dieu il attend de toi, le risque, c'est que tu t'écartes de la fidélité envers Dieu. Et qu'est-ce qui me fait dire ça avant que tu te dises « il part dans le bris, là, Mathieu ». Écoute la suite de ce qui se passe là. En fait, il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, elle est évidente, c'est on s'éloigne dans notre foi lorsqu'on s'éloigne des personnes qui sont dans la foi. Les gens nous énervent, ça je l'ai dit, ils ont un sale caractère, alors on part. Ou alors c'est juste on part dans une nouvelle église et on prend pas le temps, dans une nouvelle ville, et on prend pas le temps de chercher une communauté parce qu'on est là, on se dit bon, aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a, on peut regarder la télé, il y a les messages, il y a tout ça, etc. Et c'est très bien, c'est super, ne me faites pas dire le contraire. Mais au bout d'un moment, il nous manque quelque chose. Il nous manque la réalité, la communion fraternelle. Que l'autre me voit, que moi je puisse vivre ma vie publique. Deux fois. Il y a autre chose qui se passe, un deuxième aspect, qui est à la fin du ministère de Jésus, il est là avec ses disciples, il leur raconte pas mal de choses, il leur dit « Je vais partir, puis je vais revenir, je vais vous préparer une demeure, et puis... » Les disciples sont là, wow. Stop Jésus, je ne comprends pas trop tout ce que tu es en train de dire, c'est assez troublant. Mais il y en a un qui se lève et il s'appelle Philippe et il intervient et il dit, ok Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffira. J'ai juste besoin de voir le Père, je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais j'ai juste besoin de ça. Et Jésus lui répond et il lui dit ça. après tout le temps que j'ai passé avec toi, avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et on peut juste lire ce passage et se dire, ouais, c'est cool. Ou alors on peut juste lire ce passage et puis se dire, waouh. Attends, c'est quand même limite blasphématoire ce qu'est en train de dire Jésus. Il est en train de dire que quand on le voit lui, Jésus, là, homme sur terre, on voit le Père, Dieu, au ciel. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est un peu waouh. Les disciples, ils auraient pu partir et se dire, là, ils délirent. Mais non, ils sont restés. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et en d'autres termes, il est en train de dire Jésus, Philippe, dans ce monde, il n'y a pas un être, un homme, qui ressemble plus à Dieu que moi, ici, là, en bas, sur terre, face à toi. Si tu me vois, tu as une image qui ressemble à Dieu. Je suis Dieu. Il est en train de lui dire ça. Donc, pourquoi Philippe lui demandait « Montre-nous le Père ?» Et c'est intéressant. Et après, Jésus, il est crucifié, il est ressuscité, ensuite, il établit l'Église, et puis il part. Et après, il y a Paul qui arrive, qui instaure l'Église, et puis il commence à dire à l'Église, « Vous êtes le corps de Christ. » Le corps physique de Jésus, il est parti, mais vous, l'Église, vous êtes le corps de Christ. Pas Raymond, pas Bastien, pas Patrick, pas Manu, pas Jean-Claude, pas Geneviève. Vous, collectivement, ensemble, vous êtes le corps de Christ. Vous, l'Église, vous êtes l'image qui est le plus à la ressemblance de Dieu ici sur terre. C'est ça qu'il est en train de leur dire. C'est hyper important qu'on capte ça. Et vous aimez peut-être pas ça, mais c'est dans le Nouveau Testament, lisez-le. Et plus loin, enfin dans un autre passage, Jésus, dans une parabole, il explique ça à ses disciples. En Matthieu 25, on le retrouve. Il dit, vous allez avoir des opportunités pour prendre soin les uns des autres. Et lorsque vous le ferez, ce sera comme si vous avez pris soin de moi. Mais les disciples vont répondre, mais quand est-ce qu'on t'a vu en prison ou avoir soif ou avoir faim ou même être nu et avoir besoin d'un vêtement? Et Jésus va leur répondre, je n'ai pas mis le verset, chaque fois, attendez, voilà, pardon, nous sommes l'image du Père, je ne voulais pas montrer, mais voilà, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Il est en train de dire, Jésus, que la manière dont vous traitez votre frère, votre sœur, la manière dont vous traitez l'autre, c'est un indicateur de la manière dont vous êtes en relation avec Jésus, avec lui. Oui, parce que vous êtes mon corps. Donc si tu t'isoles des autres, de l'Église, au final, tu vas tendre à t'isoler du Père. Et si on n'est pas connecté les uns aux autres, on perd le contexte, l'approche que Dieu a voulu pour que l'on puisse grandir dans notre fidélité envers lui. Parce que quand on est mis au défi, quand on est à l'écoute de la foi de l'autre qui a vécu un témoignage extraordinaire, alors on est en train de grandir, de mûrir dans notre vie, on est en train de devenir ses disciples et on est en train d'être fidèles envers ce que Dieu veut. Vous voyez comment ça joue l'aspect communion fraternelle et fidélité envers Dieu ? Combien c'est lié ensemble ? Combien on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Et Jésus va dire aussi, on l'a entendu déjà deux fois, mais je vous le remets, car là où deux ou trois sont en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est quelque chose d'important. Si on abandonne la communion fraternelle, si on se déconnecte des autres, il y a des chances qu'on se dirige à glisser dans notre foi, peut-être vers des hérésies, vers des choses, des pensées, des croyances personnelles, mais ultimement glisser dans notre fidélité envers Dieu. La foi, elle prend vie en communauté. Notre foi, elle devient vivante quand on est avec, connecté avec les autres. C'est difficile de vivre sa foi en action les uns avec les autres si on n'est pas connecté avec les autres. Et si tu t'isoles la communauté, ben le risque c'est que tu deviennes égocentré, tourné vers toi et que tu en viennes à penser que les autres ils n'ont rien compris. Et vous savez, c'est un peu un problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église, c'est que on ne prend pas le temps d'écouter les histoires des autres. Mais en réalité, quand on écoute les histoires des autres, ça nous rapproche de l'autre. Plutôt que d'avoir notre perception de l'autre, de croire ça et ça, oh, il devrait agir comme ça, etc. Si on s'arrêtait, qu'on venait et qu'on connectait, on disait, comment ça va? Je vois qu'il y a des troubles, raconte-moi un peu ton histoire, raconte-moi ce qui s'est passé. Et après on arrive et on fait, waouh, je comprends pourquoi il agit comme ça maintenant. Ça ne veut pas dire que je vais accepter, etc., mais je peux l'accompagner. Je peux comprendre ce qui se passe. Je ne suis plus dans un esprit de jugement, donc moi et Dieu, c'est parfait, puis oh les autres, quand est-ce qu'ils vont arriver? Attends, Dieu va le choper, il va le remettre en place. Non, je suis dans une idée de communion, de comprendre l'autre, de connecter, d'être dans la vie de l'autre. Et dans l'Église du premier siècle, c'était extraordinaire parce que c'était quoi? C'était des hommes, des femmes. Vous voyez, il y avait des femmes. Des hommes, des femmes. Des femmes. Des esclaves. Des maîtres. Des érudits. Des personnes qui avaient peu d'accès ou de capacité à écrire, ou etc. Il y avait des riches, il y avait des pauvres. C'était l'ecclésia, l'Église. C'était ça. Ça ne dépendait pas du statut social, ça ne dépendait pas de la race, ça ne dépendait pas de je viens de où, etc. Non, c'était l'Église, c'était un ensemble, c'était l'image à la ressemblance de Dieu sur terre, pour que les autres voient publiquement l'Église, voient Dieu, grandissent dans leur foi, deviennent des disciples. On ne peut pas vivre notre foi seul, c'est un sport d'équipe, les amis. Pour suivre Jésus, pour être un disciple, il est nécessaire qu'on soit en communauté. C'est dans le plan de Dieu. C'est un plan les uns les autres. Quand on entend les histoires des autres, ça désenfle notre ego. Ça nous montre qu'on a besoin d'activer notre foi dans certains domaines de notre vie. Et regardez comment conclut l'auteur d'Hébreux. Pardon. Je n'ai pas mis ce verset. Je me suis loupé. C'est pas grave, je vais vous le lire. Ah si, voilà, c'est ça, pardon. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. On ne peut pas faire ça tout seul. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Il dit chacun des croyants, qu'importe combien forte est ta foi en Dieu, tu dois être en relation. Et une relation dans laquelle tu encourages et tu es encouragé par les autres quand tu en as envie, quand tu en as besoin et quand on n'a pas envie, quand on n'a pas besoin. Et encourager, ça veut dire quoi? Encourager, ça veut dire instiller, donner du courage à quelqu'un. Pourquoi on a besoin de recevoir du courage ? Parce que ça prend du courage de vivre sa foi dans notre quotidien. Au travail, ça prend du courage. À l'école, ça prend du courage. Avec tes voisins, ça prend du courage de vivre ta foi. Dans ta famille, qui est parfois hostile à la foi, ça prend du courage. Quand la maladie, elle vient frapper à la porte, ça prend du courage de vivre ta foi. Du courage, pourquoi ? Pour faire quelque chose, pas juste pour croire quelque chose. Pour faire ce qui est juste, parfois pour faire ce qui est dur. Pour être altruiste, pour pardonner. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, si tu veux suivre Jésus, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est ça et ça. La foi, pour être un disciple, pour vivre vraiment la vie de quelqu'un qui suit Jésus, on doit avoir une foi verticale et une foi horizontale. Et je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre sur scène. Vous aurez compris, on a besoin d'être connectés, d'être en relation les uns avec les autres. Reprenons rapidement les versets que je viens de vous lire. L'auteur aux Hébreux dit « Restons fermement, tenez, restez, demeurez, attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » En d'autres termes, ça c'est la part de Dieu. Mais quelle est notre part ? Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager, pour nous inciter, pour nous exciter, pour nous pousser, pour instiger, pour avoir accès, pour nous rendre des comptes mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. C'est maintenant qu'on a besoin d'être l'Église. C'est maintenant que publiquement les gens doivent voir que notre foi est concrète. C'est publiquement que maintenant on doit étaler ce que nous sommes. On ne peut pas s'arrêter à avoir une foi privée. On doit avoir une foi les uns les autres. C'est essentiel, les amis. Et le désir des pasteurs ici à ECP, le désir de beaucoup même, c'est qu'on expérimente cette vie. C'est qu'on en vienne à être vraiment ses disciples. Cette année, c'est ce qu'on veut pour toi. Et pour ça, ça va prendre deux choses. Que tu sois connecté avec les autres et que tu vives ta foi personnellement. Et alors qu'on débute, est-ce qu'on peut laisser le PowerPoint, s'il te plaît, j'ai encore quelques slides. Et alors qu'on débute cette nouvelle année, cette année scolaire, j'aimerais te laisser avec quelques questions. La première, c'est: as-tu quelqu'un en dehors de ta vie qui t'encourage à vivre ta foi? Est-ce que tu as un groupe de personnes en dehors de ta famille à qui tu as laissé l'accès, tu as donné permission pour qu'ils puissent venir toquer à la porte de ton cœur et te dire « Tu sais, mon frère, j'ai remarqué ça chez toi. Ce serait peut-être bien, ce serait peut-être le temps de l'enlever. J'ai vu ça. » Et je voulais te dire, sois encouragé, c'est pas la maladie qui va te retenir. Dieu est fort. Amen. Peut-être tu as besoin de quelqu'un qui vienne et qui te dise, tu n'as plus besoin de porter ce masque, plus besoin de porter ce manteau. Tu peux vivre ta foi publiquement. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide et qui t'aide à se débarrasser de toutes ces choses. Tu as du mal toi-même à les vivre, afin que la place soit faite, la place soit prête pour que tu puisses te remettre en route et te mettre à pratiquer, à vivre la vie de disciple, à vivre ta vie de foi.
Amen.
À pas juste croire, mais à pratiquer,
ouais,
à exercer les choses que Dieu a placées en
Amen.
Toi. C'est notre désir pour toi. C'est ce qu'on veut pour toi. Est-ce que tu as ce groupe de personnes dans ta vie pour t'aider à remonter sur le vélo? Est-ce que tu as donné la permission à quelqu'un de venir et accéder à ton cœur, d'écouter ton histoire où tu penses que ça c'est quelque chose de privé? Est-ce que tu es prêt à rendre des comptes? Et une autre question c'est, est-ce que tu as délaissé le fait de connecter avec les autres pour X raison? Tu as arrêté d'être avec les autres? Ou peut-être, la question que tu devrais te poser, c'est, as-tu déjà connecté avec les autres? Pas juste venir le dimanche matin remplir ces rangs là qui sont infinis, qui partent dans tous les sens, et puis où il n'y a aucun sens de redevabilité, de partage, de communion, mais un sens où c'est quelque chose de plus, un cercle, là où tu partages, où tu vis les uns les autres en communion. Est-ce que tu as ça dans ta vie? Est-ce que tu as déjà osé faire le pas? Et vous savez, si je parle de tout ça, peut-être tu t'es toujours posé la question, mais finalement comment est-ce qu'on vit ça à ECP? Comment est-ce qu'on arrive à atteindre cette chose-là? Peut-être tu n'as jamais compris quand on faisait les annonces, etc. Mais voilà, si tu veux entendre le cœur de ce que c'est pour nous un connect, c'est ça. Les connects, c'est ça ces groupes. C'est pour ça qu'on a voulu ces groupes. C'est pas pour s'enfler d'orgueil ou en savoir plus ou quoi que ce soit. C'est pour vraiment vivre cette vie de communion fraternelle. C'est ça la base. Un groupe où tu peux partager. Et tu vas me dire, oui, j'ai peut-être eu cette expérience ou cette chose-là au Connect, et puis au bout d'un moment, tu t'es dit, ah, ça ne convient pas, ça ne me plaît pas et tout ça. Est-ce que c'est juste à ton sujet? Ou est-ce que toi, tu es là aussi pour encourager? Excuse-moi de le mettre comme ça. Notre idée du Connect, c'est d'avoir un cadre, un contexte, au-delà du dimanche matin, pour que toi, tu puisses partager. Vivre ta foi, pas juste en privé, mais publiquement. Que tu sois étendu et qu'elle dépasse même le cadre de ce petit groupe. Que quand tu ailles au travail, quand tu ailles à l'école, que tu ailles dans un lieu, où qu'il soit, les gens puissent voir et puissent dire « Waouh !» Avoir la mâchoire décrochée et se dire « Je veux ça. Je veux vivre cette vie-là. Je veux vivre ce que cette église vit. Je veux vraiment vivre ce que ces chrétiens vivent. Parce qu'ils agissent selon ce qu'ils croient. Ils font vraiment en fonction de leur croyance. Ce n'est pas des hypocrites. Ils agissent vraiment ainsi. J'aimerais t'inviter à reconsidérer ta participation à un Connect. Tu vas me dire, ah, je ne suis pas dispo le jeudi. On s'en fout du jeudi. Excuse-moi, mais ça peut être un autre jour, un autre moment, ça peut même être un matin. On peut créer un contexte. Mais ne te mets pas d'excuses pour éviter de vivre la vie en connexion avec les autres. Si on a voulu se connecter, c'est parce qu'on estime que c'est important pour toi, pour pouvoir vivre la vie de quelqu'un qui suit réellement Jésus, qui devient un disciple et qui manifeste auprès des autres ce qu'est la vie de foi en Jésus-Christ. Je sais que vous vous dites à ce moment-là, vous avez plein de choses et vous avez toutes sortes de limites au fait de participer à un connect. Comme vous avez peut-être des limites au moment où c'est le moment d'aller faire du sport. Mais je vous encourage à songer à ça. Je vous encourage à prendre part à ça. Et s'il y a une limite pour vous, pour ça, venez nous voir les pasteurs. On va réfléchir ensemble. Parce que notre but, c'est de pouvoir mettre en place ce contexte autour de ta vie, autour de toi, pour que tu puisses vivre ça, expérimenter ça. Amen. Amen. On va prendre juste quelques temps, juste pour louer Dieu et vraiment pour lui demander de nous parler dans cette situation. Amen.